Il les accompagne à Berlin pour la première triomphale du Ring en 1881, 5 ans après la création à Bayreuth, 2 ans avant la mort du maître à Venise, maître qui pense encore, dit-on, à la fin de sa vie, à l'écriture d'un opéra bouddhiste, Les Vainqueurs, dont le titre à l'air si peu bouddhiste faisait rire Sarah aux éclats. Au moins autant que certaines remarques de ce pauvre Gobineau. Elle était allée chercher ses œuvres complètes à la cave, c'est-à-dire dans la bibliothèque de l'Institut, et je nous revois, alors que le second mouvement de l'Octuaire de Mendelssohn commence, en train de lire à haute voix des fragments de 3 ans en Asie. Même Faugier avait arrêté ses circonvolutions angoissées pour se pencher sur la prose du pauvre orientaliste. Le personnage de Gobineau avait quelque chose de touchant. C'était un poète atroce et un romancier sans grand génie. Seuls ses récits de voyage et les nouvelles qu'il tira de ses souvenirs semblaient présenter un réel intérêt. Il était aussi sculpteur et avait même exposé quelques bustes, dont une Valkyrie, une Sonata Appassionata et une Reine Mab. Wagner, Beethoven, Berlioz, le bonhomme avait du goût. Des marbres plutôt expressifs, d'une belle finesse d'après les critiques. Il avait été assez fameux dans les cercles du pouvoir. Il avait rencontré Napoléon III, sa femme et ses ministres. Il eut toute une carrière de diplomate, en poste en Allemagne, puis 2 fois en Perse, en Grèce, au Brésil, en Suède et en Norvège. Il fréquenta Tocqueville, Renan, Liszt et de nombreux orientalistes de son temps. August Friedrich Pott, le sanskritiste allemand, ou Jules Moll, l'iranisant français, premier traducteur du Shah Nameh. Julius Eutting lui-même, grand savant oriental de la Strasbourg allemande, racheta entièrement et pour le compte du Reich l'ensemble de l'héritage Gobineau après sa mort. Les sculptures, les manuscrits, les lettres, les tapis, tout ce qu'un orientaliste laisse derrière lui comme breloque. Le hasard et la Première Guerre mondiale ont fait que cette collection est redevenue française en 1918. Il est étrange de penser que les millions de morts de cette guerre idiote n'avaient pour objectif, en dernière instance, que de priver l'Autriche des plages adriatiques et de récupérer les vieilleries de la succession Gobineau, bogartées par les Teutons. Malheureusement, tous ces gens sont morts pour rien. Il y a des millions d'Autrichiens en vacances en Istrie et en Vénétie, et l'université de Strasbourg a renoncé depuis longtemps, dans son petit musée, à exposer les reliques de Gobineau, victime du racisme théorique de son siècle, qui brûle les mains des conservateurs successifs de l'endroit. Le comte de Gobineau avait la démocratie en horreur. « Je hais mortellement le pouvoir populaire, disait-il. Il savait être d'une grande violence ironique envers la bêtise supposée des temps, celle d'un monde peuplé d'insectes, armé d'instruments de ruine, attaché à jeter à terre ce que j'ai respecté, ce que j'ai aimé, un monde qui brûle les villes, abat les cathédrales, ne veut plus de livres, ni de musique, ni de tableaux, et substitue à tout la pomme de terre, le bœuf saignant et le vin bleu, écrit-il dans son roman Les Pléiades, qui s'ouvre par cette longue diatribe contre les imbéciles qui n'est pas sans rappeler les discours des intellectuels d'extrême droite d'aujourd'hui. Le fondement des théories racistes de Gobineau était la déploration. Le sentiment de la longue décadence de l'Occident, le ressentiment envers le vulgaire. Où est l'empire de Darius? Où est la grandeur de Rome? Mais contrairement à ses disciples postérieurs, il ne voyait pas dans l'élément juif le responsable de la déchéance de la race aryenne. Pour lui, et c'est évidemment un élément qui ne devait pas être du goût de Wagner ou de Chamberlain, le meilleur exemple de la pureté de la race aryenne est la noblesse française, ce qui est plutôt comique. Cette œuvre de jeunesse, essai sur l'inégalité des races humaines, doit autant aux approximations linguistiques qu'au balbutiement des sciences humaines. Mais Gobineau verra,